Portrait d'Orient cette semaine consacré à un auteur de best-seller, Éric Laurent. Il a écrit plus d'une quinzaine de livres sur les coulisses de l'actualité internationale, dont certains, il faut bien le dire, ont fait date. Le monde secret des Bush, la face cachée du 11 septembre, ou encore Bush, l'Iran et la bombe, pour ne citer que ces trois derniers. Trois livres qui nous entraînent dans les arcanes des pouvoirs nord-américains, notamment, et qui nous apportent d'incroyables révélations. Éric Laurent, comment vous est venue cette idée de vous engager ainsi durant toutes ces années dans la description des zones d'ombre de la grande actualité internationale ?
Vous savez, John le Carré disait « Pour comprendre les problèmes, suivez l'argent ». Et je trouve que c'est une excellente formule. Et je vois que les ressorts souvent de la politique correspondent effectivement à des intérêts qui sont plus souvent des intérêts cachés, occultes, financiers, commerciaux, économiques, sans avoir pour autant une approche marxiste. Mais vraiment, c'est tout à fait surprenant. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai toujours pensé que derrière une réalité officielle, il y avait une vérité cachée. Donc j'essaie de crocheter les portes et de voir ce qu'il y a derrière. Et ça coïncide aussi avec une période où je pense que l'exercice de l'information devient de plus en plus compliqué. Avec l'arrivée de nouveaux moyens de communication, la course à l'audience, la rapidité de circulation d'informations font que l'information ne peut plus aujourd'hui être vérifiée, recoupée, ou même les enquêtes qui nécessitent du temps ne peuvent plus être menées à bien.
Ça va trop vite.
Ça va beaucoup trop vite. Le nombre d'informations qui circulent, etc., notamment à travers le net et la concurrence entre le net et les moyens d'information traditionnels font qu'il est impossible aujourd'hui, effectivement, de vérifier, de recouper des informations ou même d'aller plus loin dans la vérification ou surtout l'approfondissement de certaines informations. Donc, ça laisse la place à quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux et qui est la communication politique sous toutes ses formes qui circule effectivement et qui est relayée souvent par les médias parce que là encore, le manque de temps fait qu'il est impossible de contester une information ou d'avoir le temps de contester et de vérifier ou de desséquer une information qui vous parvient et ça me paraît extrêmement dangereux. Donc on est dans une logique de plus en plus grande, à mon avis, de désinformation avec tout ce que cela induit, bien sûr, évidemment, en termes de conséquences pour les citoyens et pour l'opinion en général.
Oui, une opinion d'ailleurs qui, après ce que vous venez de décrire, peut prendre des positions qui vont complètement à l'encontre de la réalité.
Bien sûr.
Alors, votre livre « Bush, l'Iran et la bombe » a eu un très grand succès. Vous y racontez comment l'administration de George Bush avait planifié, dites-vous, une intervention de grande ampleur contre l'Iran. Une guerre programmée et qui, fort heureusement, n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est l'élection de Barack Obama qui a empêché le pire de se produire, selon vous ?
Non, il y a eu deux choses. D'abord, il faut revenir à une période qui nous paraît aujourd'hui très ancienne, mais qui remonte seulement à quelques années, où, en effet, il faut rappeler que l'administration américaine, celle de George Bush, était sous influence des fameux néoconservateurs. C'est la première fois, quand même, dans l'histoire politique des États-Unis. Jusqu'alors, les présidents étaient entourés de conseillers qui étaient, au fond, soit libéraux, conservateurs, interventionnistes, isolationnistes, peu importe. Mais, en fait, leur sensibilité différente faisait qu'ils se combattaient, et au fond, les choses s'équilibraient. Pour la première fois avec Bush, on est arrivé à une situation où était au pouvoir, je veux dire, en termes de politique étrangère et contrôlant la politique étrangère, un groupe d'hommes, les fameux néoconservateurs, qui avaient le même projet politique, la même logique, qui fonctionnaient en réseau depuis 20 ans, 25 ans, et qui avaient effectivement œuvré pour parvenir au sommet du pouvoir. Donc ces gens ont décidé effectivement d'influer le président pour intervenir militairement en Irak. Mais pendant un moment, avant 2002, après évidemment le 11 septembre, qui a été une formidable occasion pour eux, il y a eu une hésitation. Est-ce qu'on choisissait l'Irak ou l'Iran ? Et en fait, Bush, pendant un moment, a flotté et a décidé en réalité d'intervenir militairement en Irak parce que, pour une raison très simple, d'ailleurs c'est ça justement, c'est qu'une intervention militaire était évidemment beaucoup moins complexe. Mais l'Iran restait sur l'agenda du président et il était prévu effectivement ensuite une intervention militaire de grande ampleur. Et cette intervention, effectivement, donc, est quelque chose qui a été reconduit régulièrement par l'administration Bush en secret jusqu'au moment où, semble-t-il, l'enlisement ou les difficultés en Irak ont rendu très difficile, plus l'Afghanistan qui revenait au premier plan, ont rendu très difficile pour cette administration l'ouverture évidemment d'un autre front.
Aujourd'hui, si la donne a changé, comme on dit, à Washington, en revanche, à Téhéran, la ligne radicale, elle perdure. Comment la nouvelle Maison-Blanche peut gérer sa relation avec l'Iran aujourd'hui ?
D'abord, il faut quand même rappeler que pour les États de la région, notamment les monarchies pétrolières du Golfe, l'intervention militaire américaine en Irak est un véritable désastre. Mais désastre parce que cette intervention a abouti à élargir l'influence iranienne dans la région et notamment en Irak. Il est clair aujourd'hui que pour, en effet, donc les monarchies du Golfe, l'Iran est maître du jeu à Bagdad. Donc ça, c'est un premier point extrêmement préoccupant. Le deuxième point, l'administration Obama est intervenue à travers les propos du président en reconnaissant, il faut le rappeler d'ailleurs dans les premières interventions, implicitement le rôle et l'influence de puissance régionale de Téhéran. Donc c'était un signal très fort envoyé aux dirigeants iraniens qui les a confortés dans leur intransigeance. Et puis, il faut quand même souligner aussi une chose que l'administration Obama semble ne pas avoir perçue, c'est que les deux piliers du régime théocratique iranien, même au-delà des durcissements actuels...
Oui, on va en parler tout à
l'heure. Oui, voilà, c'est bien sûr un islamisme radical d'une part, mais d'autre part un anti-américanisme. Et c'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas eu, je veux dire, au sein des services de renseignement ou même parmi les experts, quelqu'un qui ait produit auprès du président un profil précis du guide de réélection Khamenei, qui est farouchement anti-américain et dont, en effet, la grande peur, c'est que l'influence américaine revienne en Iran, l'influence même culturelle, donc peu à peu sape le pouvoir à travers, en effet, donc ce risque de libéralisation.
J'ai oublié de vous demander tout de suite là, ces conservateurs, ces néo-conservateurs dont vous parliez tout à l'heure et qui étaient prêts à engager une guerre contre l'Iran et qui l'ont préparé, dites-vous, ont-ils totalement disparu du paysage américain ou ont-ils encore une influence à quelque degré que ce soit, selon vous ?
Il y a eu un certain nombre d'entre eux qui se sont emportés sur McCain durant la campagne. Et d'ailleurs, il faut rappeler, c'est assez drôle, en 2000 en réalité, quand il y a eu les élections présidentielles qui ont abouti à l'élection de George W. Bush, le candidat préféré des néoconservateurs à l'époque, ça n'était pas du tout Bush. Parce que les néoconservateurs croyaient que Bush allait mener la même politique, à leurs yeux un peu molle, que celle de son père. Donc leur candidat préféré, c'était McCain. Et c'est ensuite la victoire de Bush qui les a conduits à se rallier à l'administration. Et ensuite, à utiliser effectivement leur réseau pour jouer d'une influence accrue. Non, aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux sont retournés à leurs chères études et c'est vrai que leur influence politique est nulle. Et leur discrédit, par contre, est grand.
Alors, face au développement du programme nucléaire iranien, que peut faire Barack Obama, sachant que la question nucléaire cimente l'unité du régime à Téhéran et fait même la quasi-unanimité dans l'opinion publique iranienne, qui d'ailleurs déplore un deux poids deux mesures en la matière.
Mais c'est évident, par exemple, il faut le rappeler, mais vous l'avez dit probablement, Moussavi déjà était effectivement des artisans du programme nucléaire, donc il ne pouvait pas y avoir là, sur ce dossier, de divergence et de changement accru. D'ailleurs, les Iraniens, ont été là pour une fois sans ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils étaient prêts à discuter de tout avec le président américain, discuter de leur rôle dans la région, mais sur le dossier nucléaire, c'est une ligne jaune qu'ils refusent, effectivement, devoir franchi par les Américains. Ils ne veulent pas et n'accepteront pas avec la nouvelle administration, de faire des concessions. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les propos extrêmement favorables et conciliants de la part du président américain, renforce la ligne dure, même avant les élections donc iraniennes, et justifie le bien fondé de cette intransigeance. Et je ne vois pas de quelle manière, et ça aussi c'est une autre, à mon avis, naïveté du président américain, que de penser qu'il arrivera à infléchir le nucléaire, les Iraniens sur le nucléaire. Ce qui conduit à une deuxième question, c'est si, en effet, ce programme nucléaire, comme tout le monde le pense, y compris maintenant M. El Baradei, le président de l'Agence internationale de l'énergie, qui maintenant, après quand même de nombreuses circonvolutions, sémantiques en disant oui, peut-être, en effet, mais c'est pas sûr que, reconnaît qu'en effet, l'objectif, c'est d'avoir l'arme nucléaire. Donc là, Barack Obama va se trouver au pied du mur. Et là, on revient à ce qui était l'objet de mon enquête, c'est-à-dire que font les Américains. Et là, on se retrouve sur une ligne dure partagée par tout, effectivement, toute la classe politique américaine. C'est-à-dire, ça, on revient sur la formule de McCain qui disait il n'y a qu'une seule chose de pire que des interventions militaires contre l'Iran, c'est un Iran nucléaire. Voilà. Donc Obama ne pourra pas faire l'économie d'un moment donné de ce choix.
Et quand les Iraniens vous disent, écoutez, pourquoi nous n'aurions pas, nous, le bénéfice du nucléaire, y compris militaire, hein, c'est sous-entendu, on ne nous l'accorderait pas à nous alors qu'il est permis au Pakistan, à l'Inde, à Israël?
Mais d'une certaine manière, ils ont raison, parce que pour eux, ils estiment effectivement que... Je me rappelle, j'avais rencontré une Indira Gandhi qui m'avait dit, au fond, vous comprenez que c'est quand même très étonnant que les seules puissances nucléaires au monde soient en effet les membres permanents du Conseil de sécurité. Et pourquoi le refuse-t-on à des pays en développement? Et donc, on avait ensuite l'Inde, le Pakistan, et c'est vrai, pourquoi pas l'Iran? L'Iran a simplement un gros travers, c'est qu'il est membre du traité de non-prolifération. Et il est évident que si ce traité de non-prolifération vole en éclats, ce qui serait le cas avec un Iran se dotant de l'arme nucléaire, il n'y aurait plus effectivement de règles internationales, bien sûr, plus de cadre international, et ce serait une course à la dissémination nucléaire. C'est-à-dire que tous les pays de la région voudraient s'en doter rapidement.
Alors,
ne serait-ce que pour se protéger d'ailleurs de Téhéran.
Oui. Certains parient sur un effondrement du régime islamique de l'intérieur. Vous croyez, vous, que les contradictions qui traversent le sommet du pouvoir peuvent aller jusqu'à un affrontement ouvert entre, et même décisif, entre les deux grands courants politico-religieux à Téhéran?
Je crois que tout le monde s'est trompé sur l'ampleur, d'abord sur la nature de la crise. Tout le monde a vu dans cette crise et dans les manifestations extrêmement impressionnantes une espèce d'aspiration à la démocratie qui est réelle, bien entendu, dans l'opposition. Mais au-delà, personne n'avait mesuré à quel point il y avait un affrontement désormais mortel engagé entre deux clans, je veux dire les deux principaux clans du régime, voilà, donc qui tiennent le pouvoir. Et la nature du pouvoir iranien est assez particulière, c'est-à-dire que il y a un certain nombre, dirais-je, de corps élus qui coexistent avec des corps non élus qui sont parfois plus puissants que ces corps élus. C'est vrai qu'en apparence, les élections étaient, je dis bien, plus démocratiques en Iran qu'en Arabie Saoudite, c'est vrai. Mais au-delà, il y avait la possibilité de contrer les résultats des élections à travers, en effet, donc, un certain nombre de décisions. Bon, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y avait jusqu'alors une structure de pouvoir en Iran, qui faisait que les perdants ne sortaient pas du jeu. C'est-à-dire que le pouvoir restait stable parce que il conservait dans son sein même ceux qui avaient temporairement perdu. Là, on est dans une situation de rupture absolue, où on s'affronte sur deux lignes, mais également sur deux logiques, à la fois de conservation du pouvoir pour le clan, et de conservation et de prise accrue du pouvoir par le clan Ahmadinejad et les gardiens de la révolution, et sur l'autre, pour simplifier, mais c'est plus complexe encore que ça, oui, via le clan bien sûr derrière Moussavi, qui est celui en effet de Rafsanjani, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que Rafsanjani ait été un soutien extrêmement efficace pour Moussavi, parce que c'est évidemment une figure extrêmement corrompue, on le sait, à travers le pays, à travers l'opinion.
J'allais évoquer le sujet, puisque cette dernière élection présidentielle a mis en lumière la toute puissance d'abord du guide, l'ayatollah Ali Khamenei. Il est la clé de voûte du régime. Pourtant, le pays compte plusieurs instances, vous l'avez dit, dont le pouvoir reste considérable là-bas. Alors l'Assemblée des experts, par exemple, se compose de 86 religieux. Ils sont censés justement désigner le guide et superviser son action. Et on a vu, durant la crise, le plus influent de ce cénacle s'opposer à l'élection du président Ahmadinejad. Je veux parler de ce richissime Ali Akbar Rafsanjani. On assiste aussi là à une fracture vraiment au sommet de la hiérarchie chiite.
C'est-à-dire que là, nous assistons à, je veux dire, au point culminant d'un affrontement qui a commencé en réalité en 2005 avec l'élection d'Ahmadinejad. Ensuite, il y a eu des élections qui étaient élections municipales ou régionales, municipales, et qui ont abouti à un insuccès relatif d'Ahmadinejad. Ensuite, l'autre objectif du clan, donc autour du président, était de prendre le contrôle justement de l'Assemblée des experts. Et d'ailleurs, il y avait de la part d'Ahmadinejad et de la part du guide, donc un candidat qu'ils ont poussé, et qui était un candidat, un ayatollah ultra conservateur, qui d'ailleurs est un ayatollah influent de Rome, la ville sainte, et qui a été battu par Rafsanjani. Et ça a été le premier coup d'arrêt porté à l'ascension donc du groupe Ahmadinejad. Enfin, le groupe, c'est plus que ça. Et à partir de là, les choses se sont exacerbées. Je veux dire, le verrou empêchait toute progression. Et donc, quelque part, l'élection, dans un premier temps, à travers des primaires qui n'en étaient pas de Moussavi comme candidat, s'est avéré un choix curieux, parce que c'est vrai qu'il y a eu environ, je crois, 150 ou 200 candidats qui ont tenté de se présenter à l'élection présidentielle et qui ont été évidemment écartés par les instances dirigeantes. Et le choix de Moussavi était un choix curieux, parce que c'était évidemment un homme du sérail, mais en même temps, c'était un personnage oublié de tous, y compris des jeunes générations, et dont on connaissait les liens étroits avec Rafsanjani, bien qu'il soit totalement à l'opposé, c'est un homme intègre, c'est vrai, qui en même temps est d'une grande sobriété de vie, bien bref. Mais on laissait quand même entrer en lice un homme qui était le représentant de l'adversaire déclaré de d'Ahmadinejad et son clan. Et là, la situation est devenue visiblement, y compris pour le guide, complètement incontrôlable. Et ce guide, en réalité, est, parce qu'il ne faut pas voir un état totalement théocratique. Je veux dire, il y a de nombreux religieux et surtout des ayatollahs, effectivement, de grande influence, parce que vous savez, la formule est très vraie. On dit que Khamenei était effectivement dans la hiérarchie chiite et à un niveau extrêmement modeste.
Oui, inférieur à Montazeri.
Bien sûr, Montazeri, et qui s'est retrouvé effectivement donc ayatollah en une nuit, c'est la fameuse formule. Mais c'est vrai qu'il est tenu en suspicion, après avoir été tenu en mépris par les grands ayatollahs qui ont toujours considéré que cette espèce d'influence croissante dans le politique, cette insertion dans le jeu politique était très préjudiciable et que les religieux devaient rester dans la sphère du religieux. Donc c'est tout le débat qui accompagne effectivement le régime depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini. Mais Khomeini ne s'était jamais départi, enfin, sauf dans une première phase, de ce rôle de relatif point d'équilibre entre diverses factions. Khamenei, lui, s'est clairement, j'ai dit, rangé dans un camp, qui est celui de son candidat Ahmadinejad et derrière les gardiens de la révolution. Donc, on est dans une situation, par exemple, de perte de crédibilité très forte de la part de Khamenei. Il ne peut plus aujourd'hui espérer jouer un quelconque rôle d'arbitre. Il est discrédité. Alors maintenant, quelles sont les tractations en cours? On sait que des gens, notamment ceux qui devaient valider les élections, donc se sont rendus à Rome pour essayer d'avoir l'appui pour la validation de l'élection d'Ahmadinejad, l'appui d'un certain nombre
à
Rome, oui.
Oui,
oui, mais on dit Rome.
On dit Rome, oui.
Et donc, et ils ont été, je crois, ils ont essuyé effectivement une fin de non-recevoir assez ferme.
Peut-on imaginer une rupture au sommet de la hiérarchie religieuse telle que la sacro-sainte puissance de la hiérarchie puisse être remise en question, du moins dans son intervention sur le champ politique?
Je ne crois pas. C'est un régime qui est assez bien structuré. Je ne dirais pas qu'il est toujours aussi stable. On l'a vu à travers les événements. Mais il est structuré de telle manière qu'en effet, je pense que maintenant, le conflit va passer de la rue, je veux dire, aux antichambres. Et voilà, ça va se dérouler derrière les portes, mais avec une violence extrême probablement. Mais je pense que l'opinion n'en saura rien. Et un jour, nous allons probablement assister à un événement surprenant, mais qui ne sera pas un événement de rue. Je ne crois pas. Je ne vois pas de quelle manière aujourd'hui la rue pourrait peser, pourrait continuer à peser de quelque façon que ce soit sur en effet les événements en cours.
Portrait d'Orient, notre invité est Éric Laurent, auteur de Bush, l'Iran et la bombe, enquête sur une guerre programmée, entre autres ouvrages sur les grands faits de la politique internationale. Si le système est verrouillé, on l'a bien compris, et que la pression extérieure est contre-productive, d'où peut venir l'alternative politique en Iran, selon vous?
C'est quelque part un système, au fond, un peu semblable à l'Union soviétique, c'est-à-dire, au fond, Gorbatchev, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, bien que produit du système, n'a pas compris comment il fonctionnait. C'est-à-dire qu'il a dit, nous devons changer de système, sinon nous allons mourir. Et les vieux classiques soviétiques lui répondaient, pas du tout, c'est si nous changeons que nous mourrons. C'est si nous ne bougeons pas qu'en effet nous progresserons à survivre. Et je pense qu'ils avaient raison, bien sûr, parce que chaque tentative de réforme, perestroïka, glasnost, etc., a abouti, en effet, à créer de nouveaux problèmes. Je crois que le cas de l'Iran est un peu semblable. C'est-à-dire que les hommes au pouvoir savent très bien que tout changement majeur peut être un péril mortel pour eux. Donc, il y a une espèce de défiance vis-à-vis de ces changements, et d'ailleurs qu'ils ne souhaitent pas. Sur le plan économique, je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'embargo soit le plus merveilleux des prétextes pour justifier la gabegie économique, etc. C'est un peu comme à Cuba, permet de maintenir un slogan très fort qui écarte, qui permet de se dédouaner de la réalité, c'est-à-dire que l'économie l'économie est mal gérée. En même temps, c'est une économie de pénurie où les gens sont obligés de faire avec le peu qu'ils ont ou qu'ils possèdent. Donc, il n'y a pas cette situation de dépendance vis-à-vis de la consommation extérieure, même s'il y a une aspiration à ça. Donc, tout ça fait qu'on a une société qui est assez formatée, je veux dire, à la crise, à une crise larvée et constante. Donc, il y a ce sentiment que le système, probablement le système va encore se durcir, se crisper, et donc on va aboutir à une situation, mais combien de temps peut-elle durer, ça c'est la question, où les choses vont rester extrêmement dures et figées. Mais comment peut-on espérer aujourd'hui, comment par exemple les Occidentaux peuvent-ils imaginer, avec la situation actuelle, une ouverture et, ou des concessions de la part de l'équipe au pouvoir à Téhéran? C'est quelque chose de complètement irréaliste. Et avec en plus un Iran qui a aujourd'hui, je veux dire, une capacité de nuisance régionale très forte.
Alors, grande incertitude, bien sûr, mais à propos d'alternatives, il reste tout de même la jeunesse iranienne qui n'a pas connu le régime du Shah, qui n'a pas connu non plus les premières années de la révolution. Cette jeunesse, on l'a vu, a moins de scrupules lorsqu'il s'agit de critiquer durement le régime et d'égratigner les icônes encore vivantes du khoménisme. Seulement se pose la question du leadership, non ? C'est ça, de cette jeunesse. On n'a pas vu apparaître de personnalité hors champ du régime.
Mais je pense que les conditions, évidemment, ne rendaient pas possible l'émergence même d'une personnalité de ce genre. Il aurait fallu que les manifestations puissent continuer de se déployer, effectivement, qu'elles gagnent encore en ampleur. On aurait peut-être vu là quelques dirigeants ou leaders, mais je veux dire, elles ont été réprimées assez rapidement, avec une dureté telle que, de toute façon, s'il y avait des meneurs, potentiels, ils ont été probablement éliminés.
Je pense notamment à Shirin Ebadi, qui défend des droits de l'homme. On ne l'a pas vu.
Non, on ne l'a pas vu, c'est vrai.
Moi, je pensais qu'elle allait être un peu l'égérie.
Mais vous savez que c'est un personnage qui suscite des controverses à l'intérieur de la société iranienne.
Ah bon ?
Voilà. Donc, vous discutez en Iran avec des jeunes, justement, ils ont une approche assez réservée envers elle.
Pourquoi ?
Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas toujours, effectivement, d'une grande netteté envers, par exemple, cet événement. C'est vrai qu'on a dû l'avoir davantage, bien sûr.
On lui reproche notamment, je crois, d'avoir été trop porté par les médias occidentaux.
Oui, ça c'est clair aussi. Ça, bien sûr. Et ça déjà, c'est un énorme handicap.
Alors, Éric Laurent, comment êtes-vous parvenu à vous glisser dans la proximité des pouvoirs iraniens et américains ? Car après tout, à des degrés divers et pour des raisons propres à Téhéran et à Washington, en tant que Français, vos interlocuteurs avaient toutes les raisons pour vous tenir un peu à distance, non ?
Écoutez, en ce qui concerne les États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis à Washington en 84-85. Je travaillais dans un centre d'études qui s'appelait Woodrow Wilson Center et c'était l'administration Reagan, évidemment. Et là, j'ai rencontré tous les néoconservateurs, tous ceux qui ont formé l'ossature des administrations suivantes, républicaines bien sûr, Bush-Père,
puis Perle,
Perl, Wolfowitz, j'ai bien connu. Et donc, je les ai rencontrés. Et maintenant, évidemment, je suis totalement ostracisé par eux. Je veux dire, c'est vraiment...
J'imagine.
Absolument. La porte est fermée. Et en ce qui concerne les Iraniens avaient beaucoup aimé un livre que j'avais fait donc sur le pétrole. Comme j'avais évidemment donc l'intention de faire ce livre et que j'avais effectivement rencontré des responsables américains, j'aurais demandé effectivement à rencontrer un nombre de nos responsables iraniens. Mais en réalité, les responsables que j'ai rencontrés du côté iranien, notamment au Conseil de sécurité, Larry Jani, par exemple, son adjoint, au fond, sont des gens qui tiennent assez une langue de bois, c'est assez marqué. Hein.
Quel regard vous portez sur le mode de fonctionnement du système Obama en comparaison du monde secret des Bush, pour citer l'un de vos livres publié chez Plomb ?
Écoutez, c'est un univers qui maîtrise, à la différence de Bush, c'est un univers, celui d'Obama lui-même, je ne parle pas de son administration, qui maîtrise à la perfection la communication politique. Je crois beaucoup mieux encore que Clinton. Mais par ailleurs, on a l'impression tout de même, en politique étrangère, d'un assez grand amateurisme et d'une formidable naïveté dans l'approche. Par exemple, l'Iran, on l'a maintenu aux Iraniens. iraniens. Bien sûr, le sentiment qu'on arrivera à faire fléchir, c'est quand même, c'est d'une grandeur absolue. Il y a un autre dossier sur lequel aussi de nombreux experts disent que le flottement d'administration Obama s'est fait sentir avec une extrême gravité, c'est le dossier nord-coréen, pour lequel Washington s'est montré extrêmement absent. Voilà. Il y a, on le voit très bien aussi, ces tentatives d'inflexion sur le conflit israélo-palestinien a reçu une implicite fin de non-recevoir avec la déclaration de Netanyahou disant oui, bien sûr, deux États, mais d'abord un État juif, ensuite Jérusalem capitale, ensuite pas de retour des réfugiés et effectivement nous continuons la colonisation. Donc là aussi, c'est un retour à l'envoyeur extrêmement bien emballé, mais c'est un cadeau qui est renvoyé à Washington en disant, écoutez, voilà, donc c'est hors de question. Donc, il n'y a pas d'originalité très grande dans cette administration. Il y a aussi une contradiction. Cette administration, dans un premier temps, Obama avait déclaré que la guerre en Irak était une absurdité, il avait raison, et que le véritable foyer, effectivement, du terrorisme, c'était l'Afghanistan. Voilà. Et ensuite, il a fini par dire, ça c'était quand il était candidat, arrivé au pouvoir, il a fini par dire, en effet, l'Afghanistan ne peut pas être gagné, parce que ses conseillers autour, notamment le général Jones, le conseiller de sécurité, lui a dit, c'est pas une guerre gagnable. Mais malgré tout, aujourd'hui, on poursuit des offensives militaires. Donc on est dans une contradiction permanente, cette administration, mais que personne ne relève, parce qu'effectivement, il y a un décalage très grand entre la politique d'Obama, qui suscite un scepticisme croissant, et le personnage de Barack Obama, qui continue effectivement à une popularité très forte.
Voilà, merci Éric Laurent d'être venu dans Portrait d'Orient sur RFI. Merci. Je rappelle que vos principaux livres sont édités aux éditions Plan. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Link Julien pour la technique. Prochain Portrait d'Orient, samedi, même heure, même fréquence sur RFI.